Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, UNEF, combien de divisions ? Bonjour Roby Morder.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste des mouvements étudiants et lycéens, président du GERM, le groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants. Vous avez coordonné chez Sileps, c'était en 2006, naissance d'un syndicalisme étudiant, et en 2007, 100 ans de mouvements étudiants. Alors ce n'est certes pas la première crise que connaît l'UNEF, syndicat habitué à étaler ses divisions au cours de son histoire centenaire, mais disons que celle-ci est particulièrement profonde, au point que, comme pour certaines formations politiques, la question de sa survie se pose. Une partie de l'aile gauche du syndicat vient en effet de faire sécession, dénonçant une organisation soumise, je cite, à des jeux de pouvoir permanents. Longtemps, l'UNEF exerça un règne presque sans partage sur le syndicalisme étudiant. Qu'il fut clairement ancré à gauche, et il l'est encore d'ailleurs, n'entravait pas sa domination, mais celle-ci appartient au passé. En 2016, la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, lui est passée devant lors des élections au CROUS, les œuvres universitaires, changement d'époque. Alors, il est tentant d'établir un parallèle entre ce qui s'y passe aujourd'hui et la crise de la représentation qui touche l'ensemble des corps intermédiaires, d'autant qu'un lien organique semble lier le destin de l'UNEF à celui du Parti Socialiste, comme en témoigne la longue liste de ceux qui, de Michel Rocard à François Hollande en passant par Manuel Valls ou encore Benoît Hamon, sont passés de l'une à l'autre. Mais les causes du déclin sont aussi à chercher ailleurs, dans ce que certains qualifient de dérive identitaire, voire indigéniste, au détriment des questions strictement universitaires, mais aussi dans les mutations propres à l'université qui ont eu pour effet de morceler le monde étudiant. Quand la France compte aujourd'hui plus de 2,5 millions d'étudiants, l'UNEF ne revendique plus que 36 000 adhérents. Alors l'UNEF, combien de divisions ? C'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique, en compagnie d'un ancien adhérent de l'UNEF, je crois, hein, Roby Morder, oui. Vous en avez fait partie. Alors on commence comme chaque semaine par l'actualité, cette dernière péripétie pour ce syndicat, le départ de plusieurs dizaines de militants de l'aile gauche qui appartiennent à la TUAS, la Tendance Unité et Action Syndicale. Je dis péripétie, est-ce que c'en est une ou bien est-ce que c'est une crise majeure ?
Alors c'est une crise, c'est pas la première. Savoir si cette crise finira comme péripétie ou si c'est effectivement la dernière crise, ça c'est l'histoire qui nous l'apprendra, parce qu'on a eu d'autres crises qui ont touché de manière grave l'UNEF hein, à diverses époques. Je donnerai deux exemples. Hein. C'est peu de temps avant 1968, l'UNEF est en crise. Et c'est encore pire pour l'UNEF indépendante et démocratique, quelques semaines encore ou quelques mois avant le mouvement contre la réforme de Baquet de 1986. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier des premières impressions. Il faut regarder ce qui se passe hein, et dans le contexte.
Hein, voilà, et on verra alors quelle est l'ampleur justement de ces départs, parce que c'est un processus qui est en cours. Crise un peu plus récente, ça remonte à l'an dernier. Ça a été un scandale médiatique lorsque la présidente alors de la section UNEF de la Sorbonne apparaît voilée dans un reportage sur M6.
Tout est parti de cette image, cette interview accordée à M6 le 12 mai dernier par cette jeune femme présidente de l'UNEF à la Sorbonne. Particularité, elle est voilée. Le ministre de l'Intérieur est choqué.
Ben, je pense que effectivement, c'est choquant. Je veux dire qu'il faut montrer un modèle.
Vous voyez, ma maman, moi,
quand elle allait à l'église, elle mettait un voile. Je sais pas ce que faisait la vôtre. Mais comme quoi, c'est un signe. Mais il faut pas que ça soit une marque de volonté identitaire qu'on montre qu'on est différent de la société française.
Et là, cette présidente de l'UNEF le montre.
Et là, elle semble effectivement le montrer.
Une semaine après le début de la polémique, Mariam Pouchetou a décidé de sortir de son silence.
C'est assez pathétique de la part d'un ministre de l'Intérieur d'avoir de tels propos aussi violents, sachant que mon voile n'a aucun, mais aucune fonction politique.
Le reportage diffusé sur BFM, c'était le 21 mai 2018. Vous aurez reconnu la voix de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Roby Morder, ça vous a surpris que cette question fasse à ce point polémique? Ou bien est-ce que c'est quelque chose d'assez compréhensible dans la mesure où, parmi les valeurs, me semble-t-il, de l'UNEF, il y a notamment celle de la laïcité?
Alors, oui, on va... Ça m'a frappé. C'est une présidente d'AGE, c'est-à-dire d'une section locale. Hein, c'était pas la présidente de l'UNEF nationale. Il faut creuser un certain nombre de questions, notamment rappeler que l'abbé Pierre, quand il était député, venait en soutane à l'Assemblée nationale et pourtant dans la République laïque, c'est une institution d'État, que la Confédération française des travailleurs chrétiens, avant qu'elle devienne la CFDT, syndiquait beaucoup d'ouvriers algériens, par exemple pendant la guerre d'Algérie. Donc si vous voulez, moi je me dis que le voile est sans doute représente un symbole, ceci dit... Il faut prendre en compte ce que disent les gens, c'est-à-dire elle défend pas des positions contraires aux valeurs de l'UNEF, elle s'est pas prononcée contre le droit à l'avortement, la contraception. J'espère qu'elle ôtera son voile en solidarité avec les femmes italiennes, iraniennes, pardon, ne serait-ce que 10 minutes le temps d'une manifestation devant l'ambassade d'Iran, en solidarité. Donc, si vous voulez, il faut remettre les choses un peu plus dans le contexte et aller au de bon, parce que ce qu'elle racontait. On peut comparer, par exemple, des images d'étudiants, de représentants étudiants en costume cravate des années 50 des hommes, et puis effectivement aujourd'hui, mais c'est un débat plus profond.
Et peut-être donc quelque chose, en tout cas, à relativiser, si je comprends bien vos propos. Il y a eu aussi quand même quelque chose, alors là, d'encore plus récent, mais qui pourrait participer d'une même tendance, c'est le soutien de l'UNEF au blocage d'une représentation des suppliantes d'Eschyle, c'était à la Sorbonne, parce que dans cette pièce, des masques assimilés à du blackface, c'est-à-dire le fait de se grimer la face pour imiter les Noirs, étaient utilisés. Alors ce que contestait d'ailleurs le metteur en scène, l'UNEF a soutenu le blocage de cette représentation, et pour beaucoup, ça signifie qu'il y a une dérive identitariste, voire indigéniste de ce syndicat. Là encore, est-ce que vous observez cette tendance? Est-ce que c'est quelque chose de totalement inédit?
Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part la demande d'interdiction de la pièce qui est totalement contraire aux valeurs historiques de l'UNEF. Pour mémoire, le service d'ordre de l'UNEF, dans les années 60, a défendu la représentation de la pièce de Genet à l'Odéon contre l'extrême droite qui voulait annuler la pièce. Par ailleurs, je vais vous dire, je vais faire un parallèle avec le voile. Il est estimé que l'auteur de la représentation, metteur en scène, n'est pas raciste. De la même manière que Myriam Pouchetou n'a pas d'intention en portant le voile de promouvoir la soumission patriarcale. Donc, on peut effectivement critiquer une œuvre d'art. Je pense que la demande d'interdiction est totalement, alors là, contraire à un certain nombre de valeurs, de principes. Sur la question de la dérive identitaire, je pense qu'il faut comprendre un certain nombre d'éléments. Le monde étudiant a changé dans sa composition sociale, dans les origines. Il y a de plus en plus d'enfants de populations immigrées à l'université. Et comme toute organisation, l'UNEF, comme d'autres organisations, a un conservatisme d'organisation, une culture qui est toujours un petit peu en retard. Toute organisation connaît du retard par rapport à l'évolution de ses bases sociales. Donc le fait de promouvoir des réunions non mixtes de Noirs, de gens qui n'ont pas d'habitude de la parole, elle peut se comprendre dans le sens de on se réunit, comme l'était le cas du mouvement des femmes, pour mieux s'affirmer, prendre confiance et ensuite pour mieux s'intégrer. Mais évidemment, il peut y avoir des tendances séparatistes, c'est un enjeu. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas les formes, c'est effectivement quel est l'objectif visé.
Mais est-ce que ça veut dire aussi, Robbie Morder, que la lutte contre les discriminations est peut-être devenue le principal lieu de combat pour cette organisation aujourd'hui qu'est l'UNEF? En tout cas, quelque chose qui est mis en avant, peut-être au détriment d'autres questions qui relèvent davantage des droits, par exemple, des étudiants.
Alors moi, quand je regarde souvent, comme d'autres sites d'organisation étudiante, le site de l'UNEF, je vois toute une série de revendications, effectivement. Il y avait une semaine antiraciste, mais qui est une vieille tradition, la semaine anticoloniale, la semaine antiraciste, elle remonte aux années 50, le 21 février. Et je vois qu'il y a plein de campagnes qui sont menées, plein d'actions. Alors c'est vrai que les médias ont tendance, et puis les adversaires, à ne mettre en avant que ce qui est du spectaculaire. Bon. Maintenant, la question de la sélection et des droits étudiants, elle se recoupe aussi avec les discriminations. La discrimination, c'est pas simplement les discriminations ethniques ou raciales, ce sont les discriminations sociales. Donc je crois qu'il faut bien regarder ce qui se passe et ne pas simplifier. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais je veux dire qu'il faut vraiment regarder ce qui se passe avant de parler.
Effectivement, de voir quel est le contexte et quelle est la sociologie du monde étudiant pour comprendre aussi ce qu'est cette organisation, l'UNEF, ce qu'elle est devenue. très différente de ce qu'elle a pu être au moment de sa création. C'est en 1907, le 4 mai à Lille. Pourquoi est-ce que cette organisation se crée? Est-ce que c'est dès le départ, justement, dans l'idée de défendre les droits des étudiants, qui sont évidemment beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui?
Non, non, pas du tout. Ça se crée d'abord, les associations générales d'étudiants, en tant que telles, se créent dès la fin du 19e siècle, y compris sous l'influence, avec la volonté de toute l'équipe, de Durkheim, de la Troisième République, qui ne veut pas développer d'une organe d'association revendicatrice, mais qui veulent développer des associations de sociabilité. Bon. C'est un peu comme aujourd'hui, hein, la volonté du ministère ou d'institution de valoriser les engagements étudiants, mais les engagements individuels, hein, y compris en disant le travail étudiant est un engagement professionnel, est un engagement comme un autre, et on va le valoriser. Quand se crée l'UNEF, c'est-à-dire 30 ans après, comme première union nationale d'étudiants dans le monde, hein, c'est une exception qui va devenir le modèle, eh bien, la logique propre, c'est qu'à partir du moment où vous avez une union nationale, bah, il y a des revendications. Et donc, effectivement, elle occupe une fonction syndicale. Alors, il faut prendre la distance avec le vocabulaire. Il n'y a pas d'opposition entre syndicats et associations, suivant les moments. On a affaire à des organisations, je parle de l'UNEF, mais ensuite des autres organisations étudiantes, qui se veulent représenter un milieu avec des revendications, appelant des actions, y compris à la grève, se présentant aux élections, etc., etc., sur la fonction syndicale. Voilà. Donc, mais évidemment, ça évolue avec le temps. L'UNEF est une exception dans le paysage syndical français, parce que après la libération en 1945-46 jusqu'à 1961, dans un monde syndical qui est divisé, l'UNEF est l'exception unitaire.
Et c'est peut-être ce qui va lui permettre, Roby Mordaire, de gagner certaines victoires, c'est-à-dire de permettre aussi aux droits des étudiants d'avancer. 1948, par exemple, création d'un régime de sécurité sociale géré par la MNEF. Est-ce qu'on peut dire que ça fait partie des grands succès de l'UNEF?
Oui, oui, bien sûr. C'est un grand succès d'avoir fait admettre, et c'est une création jurisprudentielle un peu particulière, de créer une sécurité sociale étudiante qui soit géré par les étudiants eux-mêmes au travers d'une mutuelle. La mutuelle qui est création syndicale. Donc ça, c'est effectivement un succès. Ensuite, quand le syndicalisme étudiant s'est affaibli, la mutuelle, l'appareil mutualiste a pris son autonomie et puis on a connu toutes les dérives. Mais parce qu'on avait un mouvement syndical affaibli, il n'y avait plus de contrôle étudiant sur la mutuelle, il y avait un contrôle de l'appareil mutualiste sur la mutuelle. C'est en fait ça. Et donc, il n'y a pas eu de force commune pour essayer de relever le défi. En même temps, dans un monde étudiant qui s'est multiplié par 15-20, entre 1948 et aujourd'hui.
Et justement, il n'y a pas eu un lien entre cette massification des étudiants et l'influence que pouvait avoir le syndicalisme étudiant et le premier d'entre eux, à savoir l'UNEF, Roby Mordaire?
On a un petit monde étudiant qui est très sociable. On le voit aujourd'hui dans des associations locales, comment ça fonctionne. Quand vous avez des grosses universités avec des milliers, il y a ce que Durkheim appelait l'anomie. L'université de Paris, jusqu'à même dans l'après-guerre, c'était la plus faible AGE de l'UNEF, la plus faible proportion d'étudiants membres. C'était dans l'université la plus importante. Donc, il y a cette anomie. Donc, si vous voulez, on a une sorte de distanciation et en même temps que d'utilisation. On ne rejette pas le syndicat, on l'utilise, mais on n'y adhère pas forcément. Mais on peut utiliser ses services. Et à partir de là, ce qui se passe dans tout le reste de la société et de manière prémonitoire, d'abord chez les étudiants, cette crise de la représentation et ces distanciations entre ceux qui sont représentent et ceux qui sont censés être représentés.
Alors on va revenir justement sur cette crise de la représentation, mais encore un instant peut-être sur ce qui pourrait être considéré comme l'âge d'or de l'UNEF. Alors est-ce que c'est parce que ça me renvoie à quelques souvenirs personnels? J'avais l'impression que moi c'était justement 1986, la contestation de la loi de Vaquer, et une des incarnations de cette contestation à l'époque, elle est vice-présidente de l'UNEF ID, c'est Isabelle Thomas, et elle intervenait sur France Inter le 25 novembre 1986.
Le terme sélection, il doit être défini, parce que pour moi, ce qui est important, c'est la connaissance, le contrôle des connaissances et la réalité d'une formation. Est-ce que, c'est l'examen, c'est-à-dire qu'on contrôle les connaissances, on contrôle la formation, tel étudiant est capable de passer dans l'année supérieure, point. C'est ça la bonne sélection, je dirais. Là, la sélection qu'on institutionnalise, c'est vrai que c'est une sélection par l'argent, c'est une sélection géographique, c'est une sélection par filière, où tous les étudiants n'auront pas les mêmes chances. Il y aura des facs de riches et des facs de pauvres, c'est une réalité. Et puis la sélection géographique, parce que en fonction de l'université, en fonction même de la région dans laquelle on se trouve, eh bien, il n'est pas évident que, c'est même certain que sur Paris, ça sera beaucoup plus, les diplômes seront plus qualifiants que sur beaucoup de facs de province.
Si je vous dis Cohn-Bendit, vous me répondez quoi?
C'est vieux.
Et si je vous dis mai 68?
C'est vieux, mais on peut en tirer des leçons.
Alors, il y avait même l'idée à l'époque de dire que 86, c'était 68 à l'envers. Roby Mordeur, cette contestation de la loi de Vaquet, ça n'est pas, d'une certaine manière, l'apogée de l'histoire de l'UNEF? Alors, c'est l'UNEF idée.
86, c'est la dernière grande réforme universitaire qui doit s'appliquer au même moment partout. Les réformes ultérieures, LMD 2004, la LRU 2007, sous Sarkozy, sont en fait des réformes cadres qui vont s'appliquer sur plusieurs années, université par université. Et donc, là, aujourd'hui, c'est l'université autonome. Donc, le champ de la des contestations et des oppositions aux réformes, il est beaucoup plus difficile à le faire nationalement, comme au moment de la loi de Vaquet, et ça pose un certain nombre de problèmes, d'ailleurs, au mouvement. 2006, c'est un mouvement victorieux, c'est un mouvement étudiant. C'est
contre le CPE, donc contre la première embauche.
Contre la première embauche, contre une réforme du Code du travail qui touche les jeunes, les étudiants aussi, mais ce n'est pas une réforme universitaire. Donc, si vous voulez, on a vraiment cette difficulté à avoir des mobilisations d'ensemble, puisque même si je reprends la question de post-bac, enfin c'est
Parcoursup.
De Parcoursup maintenant, justement la réforme Parcoursup, elle a été appliquée, alors c'est une réforme nationale.
Elle est nationale, oui.
Elle est nationale, mais en même temps, dans la réalité, elle s'est appliquée à certains secteurs, ceux qui étaient en tension. Dans la réforme de Vaquet, c'est la possibilité d'augmenter les droits d'inscription pour tout le monde. C'est la remise en cause des diplômes nationaux. Donc là, ça donne des objectifs centraux immédiats. On est dans ce contexte-là. Et quand on analyse un petit peu, quand on voit l'histoire, les documents, le travail sur les sources, sur les archives, sur les mémoires, sur les témoignages, il est très important. Mais on a très peu de moyens, y compris le ministère qui avait donné 50 000 euros sur 2 ans pour classer des archives de l'UNEFID et de la FACH. Eh bien, aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on est en attente d'une réponse ministérielle parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc, l'engagement étudiant, la représentation étudiante, y compris son histoire, c'est visiblement pas une préoccupation centrale.
Donc pour vous, Roby Mordeur, ça veut dire que l'élément principal d'explication de cette perte d'influence du syndicalisme étudiant, et en particulier de l'UNEF, c'est d'abord lié à la structure du monde universitaire, à ces réformes qui font que les revendications sont un peu plus localisées. Donc c'est difficile d'avoir une approche nationale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même une crise, alors qui est beaucoup plus large, qui est la crise de la représentation, celle des corps intermédiaires qui touche les partis politiques et les organisations syndicales?
Bien sûr, c'est une crise qui touche tout le monde. L'UNEF, et ça c'est la différence avec les années 50, y compris c'est pour ça que l'enjeu de la les solutions des crises sont pas exactement en parallèle. Si on est aujourd'hui dans un monde étudiant concurrentiel, où l'UNEF n'est pas la seule, bon, ça fait un moment qu'elle n'est pas la seule, mais elle n'est plus la première. Y compris ceux qui s'en vont ne se revendiquent même plus du sigle UNEF. Et cette crise de la représentation, c'est un ensemble. C'est l'ensemble, effectivement, l'institution universitaire, les changements du monde étudiant, du monde social autour. Et il faut comprendre aussi qu'on a, quand 40% des étudiants travaillent, c'est pas 40% de 100 000 comme en 1947. S'il y avait déjà 30 à 40%. Le problème, c'est pas le pourcentage, c'est la masse. 1 million d'étudiants qui travaillent, c'est 1 million de salariés, à savoir 5 ou 6% du champ de l'UNEDIC. Ça concerne le mouvement syndical des salariés. Aujourd'hui, dans la population active, entre 35 et 40% de la population active qui travaille a un diplôme, un niveau de formation au moins égal à Bac plus 2. Ça transforme totalement les rapports entre les représentants et les représentés. Et la question des coordinations qui a été d'abord dans les mouvements lycéens étudiants et s'est ensuite étendue dans le reste de la société, c'est aussi ça. C'est les étudiants disent, quand on est en lutte, quand on est en action, on est parfaitement capable de s'organiser nous-mêmes, même si on ne rejette pas les syndicats dans d'autres périodes. Mais c'est ce qui existe aujourd'hui partout, dans tout le monde des salariés.
Ceux qui partent de l'UNEF, et donc vous dites donc qu'ils ne revendiquent plus justement cette appartenance à l'UNEF avec des cycles qui se complétaient pendant... Oui. Ça a structuré aussi l'histoire de cette organisation syndicale. Ils disent notamment ceci, alors c'est ce qu'on appelle en tout cas l'aile gauche de l'UNEF, la TUAS, Tendance Unité Action Syndicale. Dans une très longue lettre qui a été publiée pour expliquer pourquoi ils s'en allaient, ils disent notamment ceci: le milieu étudiant, à l'image de notre société, connaît donner un virage à droite. Est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer, Roby Morder, le fait que la FAGE, alors la FAGE qui ne se revendique pas comme une organisation de droite, mais qu'on ne peut pas vraiment non plus totalement classer à gauche, est-ce que c'est ce qui expliquerait peut-être qu'elle soit passée devant l'UNEF qui est toujours clairement ancrée à gauche?
Non, d'abord la FAGE, c'est pas une organisation de corporatistes, de gens de droite et tout, mais ça fait un moment. Bon, y compris, on a beaucoup de gens du Parti Socialiste, des Verts qui ont été, et c'est plutôt une vision, ils développent une vision progressiste. Alors, évidemment, ils insistent plus sur l'indépendance parce que la FAGE et l'UNEF ont deux modes d'organisation différents. On adhère, quand on est étudiant, on adhère directement à l'UNEF. La FAGE, ce sont des associations qui sont adhérentes. C'est-à-dire, ce sont des personnes morales qui se mettent ensemble. Donc, c'est vrai que, y a plus d'adhérents dans les associations de la FAGE que de votants pour la FAGE dans les diverses élections. Donc, là aussi, quand on discute des effectifs, il faut faire attention. Est-ce qu'on parle des adhérents? Est-ce qu'on parle des militants? Donc, tout ça, c'est difficile à savoir, hein. C'est exactement si on n'a pas des réseaux de chercheurs, d'observateurs pour dire que le monde étudiant vire à droite. Je crois que c'est faux. On a affaire simplement à un changement de mode de politisation. Alors, la politique, c'est pas la politique partisane. La politique, c'est la vie dans la cité. Et donc, je pense que l'UNEF, ou ça peut valoir pour Solidaires étudiants, plus tard pour la TUAS, ont des modes d'intervention, d'action historiques, culturellement, plus anciens. Or, ce nouveau milieu étudiant, il a des besoins auxquels répondait l'ancienne grande UNEF, qui était capable de faire la congestion des Crous, la gestion de l'ABNEF, la lutte contre la guerre d'Algérie. Et donc, mais ça, c'est une seule organisation qui le faisait. Elle était suffisamment forte pour faire tout ça ensemble.
Et ce changement, Roby Morder, de l'écosystème partisan, il concerne évidemment également, et peut-être même avant tout d'ailleurs, les partis politiques, avec des partis traditionnels en énorme difficulté, notamment le Parti Socialiste, le PS considéré comme justement un des points de chute de ceux qui ont milité de manière très active à l'UNEF. Or, je crois que vous considérez que, même s'il y a un certain nombre de noms que j'ai cités au tout début d'émission, ça n'est pas tout à fait la réalité.
Non, moi je m'inspire du dictionnaire Métron qui s'intéresse aux élites obscures. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelques dizaines de personnes, députés, sénateurs, ministres, de gauche ou de droite, hein, qui ont été à l'UNEF ou dans des organisations étudiantes. Mais on a surtout des milliers de personnes, ou des dizaines de milliers, qui sont effectivement dans des fonctions, dans les services publics, dans les syndicats, dans des associations, à des postes de responsabilité, bon, parce que c'est une continuité militantisme, quelque chose qui ressemble le plus au syndicalisme, c'est-à-dire les mains dans le cambouis. En réalité, il y en a peu qui accèdent aux hautes sphères. D'abord parce que c'est limité. Et si on examine les cabinets ministériels, l'ENA ou les grandes écoles fournissent beaucoup plus que le syndicalisme étudiant ou même que le syndicalisme salarié. C'est d'ailleurs, à mon avis, dommage, hein, parce que je crois que l'apport de la pratique ferait bien d'éclairer les politiques. Et puis, le lien entre le politique et le syndical, ça se voit au travers de l'exemple de l'UNEF, hein, est pas un lien de subordination. C'est, ou si vous voulez, la courroie de transmission, elle fonctionne dans les deux sens. Prenons l'exemple du mouvement de Baquet. Le Parti Socialiste, au début, n'est pas pour le retrait du mouvement de Baquet. L'UNEF, si. Et pourtant, beaucoup d'entre eux, des dirigeants, sont membres du Parti Socialiste. C'est les étudiants qui entraînent le parti. L'UNEF, quand on voit les courants de gauche contestataires, alors ça vaut pour le Parti Socialiste comme à une autre époque pour le Parti Communiste. La plupart des militants qui ont été, sauf quelques exceptions, ensuite au Parti Communiste ou au Parti Socialiste, sont des dissidents. Benoît Hamon, qui lui-même était plus militant des jeunesses politiques, des jeunesses socialistes que de l'UNEF. Et puis, si vous voulez, la crise de l'UNEF aujourd'hui, c'est pas qu'une affirmation. Elle a vraiment rompu, et c'est vraiment cette volonté, tout lien avec les partis socialistes, insoumis. Ce qui fait qu'ils sont dans une contradiction, parce que comme il y a tout de même besoin d'un débouché politique, ils peuvent avoir la tentation de jouer un peu le rôle de syndicat-parti. Donc c'est plus cette situation, parce qu'ils sont en indépendance, beaucoup plus affirmée, et de distanciation.
Alors, est-ce que cette situation peut correspondre à l'itinéraire de celui que vous avez interviewé aujourd'hui. Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour.
Celui que vous avez interviewé, c'est un ancien président de ce syndicat devenu député.
Oui, il s'agit de Poya Amir Chahi, qui était donc en première ligne dans les mouvements de contestation de la loi Devaquet en 1986. Il était lycéen à cette époque-là, à Paris, et cette mobilisation a marqué le début de sa vie publique, qui l'a conduit notamment à être élu député sous les couleurs du PS jusqu'en 2017. Alors j'ai voulu comprendre les raisons de son engagement syndical. Comment et pourquoi entre-t-on à l'UNEF quand on est lycéen en 1986?
Bah, on y rentre parce que justement, on est dans le mouvement et qu'on rencontre des militants de l'UNEF. On est tout de suite confronté à la politique en grand parce que lorsque l'on vient vous voir à la sortie du lycée et qu'on vous explique que vous êtes menacé en tant que lycéen, parce qu'une sélection se prépare, ça ce sont des étudiants de l'UNEF qui viennent faire le tour des lycées et vous informent. Vous comprenez petit à petit qu'il se joue quelque chose sur votre avenir, surtout quand vos parents misent énormément sur votre élévation par l'éducation. Et puis il se joue encore beaucoup de choses parce que lorsque de manifestation en manifestation vos rangs grossissent, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que le soir à la télé on parle de vous, puisque les journaux, le 20h en particulier, fait état des manifestations qui essaiment toute la France. Et donc, vous avez le sentiment de participer à l'histoire en grand et faire de la politique, d'une certaine façon, sans le savoir, à grande échelle.
Et la politique, justement, devient, dans cet engagement syndical, une réalité très concrète d'assemblée générale en distribution de tracts. Comment se réalise donc cet apprentissage des us et coutumes de la mobilisation des étudiants sur le terrain?
Et là, tout ça a lieu en même temps, en fait, parce que vous êtes d'abord dans une action de type syndical lorsque vous êtes à l'université. Et l'UNEF, c'est d'abord aussi un syndicat. En tout cas, elle a toujours été forte, bien sûr, quand elle s'est intéressée aux autres questions de société. Mais d'abord, lorsqu'elle a fait la démonstration auprès des autres étudiantes et étudiants de son utilité pour eux-mêmes, pour leurs conditions d'études et pour leur bien-être à l'université. Et alors, vous êtes tout de suite amené à faire des tracts pour informer les gens, à prendre la parole dans les amphithéâtres pour les tout simplement les informer de votre existence. Vous êtes délégué de l'UNEF, de tel amphithéâtre, de tel TD, etc. Ou tout simplement leur indiquer le local qui fait des photocopies pour rendre service à tous les étudiants. Bref, de toutes les façons, vous êtes en permanence amené à organiser le milieu étudiant.
Et impossible de parler de ces années de mobilisation à l'UNEF ID sans parler des rivalités de chapelle, parfois rudes, qui pouvaient opposer les diverses factions du mouvement. C'est aussi cela l'apprentissage de la politique, selon Poya Amir Chahi.
Vous aviez à la fois une école de l'intelligence, parce que politiquement des jeunes engagés à l'UNEF, bien que de courants politiques différents, arrivaient à militer ensemble, arrivaient à construire ensemble des mouvements, arrivaient à gérer un syndicat ensemble, mais aussi parfois était confronté au sectarisme. Et donc c'était aussi l'école du sectarisme, dans la mesure où vous défendiez votre chapelle, votre drapeau politique. Et en général, lorsque ce pli-là prend le pas, c'est pas bon signe, parce que ça veut dire que l'UNEF ou les syndicats, les organisations confrontées à ce genre de rivalité interne, finissent par se détourner de leur milieu, finissent par être très centrés sur leurs problèmes internes, et en général finissent par péricliter, réduire leur score aux élections et s'éloigner peu à peu du milieu étudiant.
C'était Poya Amir Chahi, ancien leader étudiant sous les couleurs de l'UNEF ID en 1986 et actuel directeur du journal Politis.
Une toute petite réaction, Roby Mörder.
Oui, moi je partage tout à fait ce que dit Poya. Bon, il y a d'une part, comprendre que ce sont des jeunes, sont des jeunes de 18 à 25 ans qui vivent tout le temps ensemble. Je veux dire, on vit tout le temps ensemble, donc tout devient passionnel et le sectarisme guette. Mais disons que la leçon de l'histoire, c'est que vu ce qu'est le milieu étudiant qui se renouvelle très souvent, personne ne peut avoir l'hégémonie sur une période durable. Et ce qu'on peut dire, c'est que les périodes unitaires sont rares et sont possibles à partir du moment où il y a des conjonctions favorables entre la volonté de personnes bien placées dans divers courants qui veulent faire des choses ensemble et des moments historiques tels celui de la Libération ou ce qui aurait pu être le cas en 68 ou au moment de la réforme de Vaquet ou au CPE. Mais ça, c'est aux acteurs d'agir.
Ben c'est sur ce constat qu'on va se quitter aujourd'hui. Roby Mörder, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Vous publiez bientôt un nouvel ouvrage ?
Démocratie étudiante et citoyenneté dans les universités, apparaître aux éditions Sileps. Donc, c'est le résultat de colloques, de séminaires, d'un projet de recherche collectif à la fin 2019.
Merci beaucoup. Et Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Peyret Legras, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. À 12h45, vous retrouverez Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h20 dans Du grain à moudre et dans un instant, le journal de 12h30 sur France Culture.